100% d'Europe, Juliette Rangeval.
When COVID's over, we'll go light up fireworks with our pals. When COVID's over.
Bonjour, une population vaccinée à 95%, pas de nouveaux cas positifs et plus une seule personne hospitalisée en raison du Covid. Gibraltar est le seul territoire européen à avoir gagné la première bataille contre la pandémie. Les vaccins acheminés par voie aérienne depuis le Royaume-Uni ont permis ce tour de force. Gibraltar, qui avait massivement voté pour rester au sein de l'Europe lors du référendum sur le Brexit, doit se rendre à l'évidence. Le lien avec Londres reste essentiel. Un reportage de Frédéric Lebel sur Operation Freedom, le nom officiel de la campagne de vaccination à Gibraltar.
C'est en plein centre-ville, au deuxième étage d'un grand centre commercial, qu'Operation Freedom s'est déployée. Alors que sur le tarmac voisin, les avions de la Royal Air Force acheminaient depuis Londres les doses de Pfizer en début d'année, 14 salles de vaccination étaient installées avec 120 employés. Pour des rotations de 12 heures par jour, Sherin, qui vit à Gibraltar, n'en revient toujours pas.
Tout a été parfaitement organisé. Il y avait du personnel pour vous dire où aller, vous asseoir ou repartir. On est ressorti avec notre papier et puis notre carte qui prouvait qu'on avait été vacciné. Et depuis, on amène cette carte partout avec nous.
Une carte dans la poche et plus de masques dans les rues. Gibraltar semble avoir tourné la page du Covid, ou presque. Alors que tous les résidents adultes ont été vaccinés à 95%, on poursuit les injections à un rythme moins soutenu. C'est au tour des plus jeunes, les adolescents, et surtout des 15 000 travailleurs frontaliers espagnols. Salmara est employée dans une crèche. Elle habite à quelques kilomètres de là, à San Roque, en Espagne.
J'ai été vaccinée il y a 3 semaines et là j'ai ma seconde injection. Pour moi et mes proches, c'est très rassurant. Dans ma famille, aujourd'hui, il n'y a que ma grand-mère qui a été vaccinée. Tous les autres attendent. Il y a une longue file d'attente pour les vaccins en Espagne. Alors oui, j'ai vraiment beaucoup de chance et je remercie Gibraltar pour ça.
Sur ce territoire grand comme un mouchoir de poche, les bureaux du gouvernement ne sont qu'au bout de la rue. Pour le Premier ministre Fabien Picardo, ce tour de force vaccinal est une aubaine. 5 mois après le Brexit, que les habitants de Gibraltar avaient rejeté massivement, Londres retrouve un peu de sa superbe.
La Grande-Bretagne et Gibraltar ont toujours eu une relation très forte. Et au cours des 3 derniers siècles, nous sommes toujours ressortis plus soudés des épreuves. Et bien sûr, le Brexit était difficile. Mais là encore, on a resserré nos liens. Avec la pandémie et l'engagement de Londres à nous fournir des vaccins, on a réalisé à quel point on avait de la chance d'être britannique.
Le Brexit a laissé des traces dans un territoire dont l'économie est largement dépendante de tous ses employés en provenance de l'Espagne voisine qui franchissent chaque jour la frontière. Mais la jeune députée Marlène Hassan-Naon admet que les vaccins ont fait bouger les lignes.
Je vais être honnête, je suis vraiment une pro-européenne. Mais c'est vrai que si l'on compare les atermoiements européens sur la vaccination et comment le Royaume-Uni a réussi à gérer ça, comment il a aidé des territoires comme Gibraltar, les Britanniques ont clairement démontré, là, tous les atouts du Brexit.
Gibraltar est-elle pour autant sortie de la pandémie? Rien n'est moins sûr, car le Royaume-Uni a peut-être joué les sauveurs, mais c'est aussi là que se profile le risque d'un nouveau rebond avec ce variant indien potentiellement redoutable.
Il y a toujours un risque et maintenant tout le monde parle de ce nouveau variant. C'est inquiétant, c'est un monstre qu'on ne connaît pas mais dont on nous parle tous les jours. Alors bien sûr, il y a toujours la peur. Certaines personnes disent « je n'ai plus peur du Covid », mais on devrait toujours avoir peur du Covid. J'ai quelques inquiétudes mais pour l'instant, il faut juste croiser les doigts.
Sur les quais de la marina au pied du rocher, personne ne porte de masque. En terrasse, les clients sont nombreux. Mariana, propriétaire du restaurant Le Rendez-vous, se réjouit, les affaires reprennent. Mais pour cette Slovaque qui a épousé un Britannique, la carte de vaccination délivrée par les autorités de Gibraltar sera-t-elle suffisante?
J'ai entendu aux news slovaques ce matin qu'il y a ce nouveau pass sanitaire européen dont tout le monde parle. Bien sûr, on est en dehors de l'Europe, mais j'espère qu'il y aura des arrangements techniques. J'ai trop hâte de retourner dans mon pays.
Le pass sanitaire, un des nouveaux dossiers que les négociations sur le Brexit n'ont pas prévu.
Pas facile de naviguer sur les flots du Covid quand en plus l'une des principales voies de navigation est bouchée, les problèmes d'approvisionnement s'étalent sur des semaines, peut-être des mois. Rappelez-vous de l'Ever Given, le navire avait totalement bloqué la circulation du canal de Suez qui relie l'Asie et l'Europe pendant près d'une semaine en mars. Le trafic des marchandises autour du globe a repris, mais les effets de la pagaille du mois de mars se font toujours ressentir très loin au nord de l'Égypte, au pays. À Rotterdam, le plus grand port d'Europe, la réouverture du canal a été synonyme de l'arrivée simultanée de très nombreux navires marchands. Un véritable cauchemar pour les dockers néerlandais déjà sous pression depuis plusieurs années, Antoine Moutot.
Pour les dockers de Rotterdam, c'est déjà une petite victoire, mais ils veulent maintenant aller plus loin. Lorsqu'ils apprennent fin mars que le canal de Suez est enfin débouché, ils en profitent pour poser un ultimatum à leur direction. Si elle n'accepte pas de leur octroyer un départ à la retraite à 65 ans au lieu des 67 prévus, ils feront grève au pire moment, celui de l'arrivée massive des porte-conteneurs bloqués pendant plusieurs jours dans le canal. La menace de grève fait peur à leur hiérarchie. Non seulement elle bloquerait encore une fois le trafic maritime international, mais surtout cela attirerait l'attention du monde entier sur les difficiles conditions de travail des dockers de Rotterdam. Sous la pression, les dirigeants de deux compagnies de dockers cèdent à leurs revendications. Désormais, les syndicats demandent au gouvernement néerlandais de reconnaître la pénibilité de la profession, car pour l'instant, les compagnies qui acceptent de voir partir leurs employés à la retraite plus tôt que prévu doivent payer une amende à l'État. Et pénible, le métier de docker l'a été plus que jamais en avril. Aux journalistes néerlandais venus à leur rencontre après la réouverture du canal, des dockers ont montré leurs mains abîmées par la profession et du jamais vu en termes de surcharge de travail. Depuis de nombreuses années, disent les dockers, les porte-conteneurs sont de plus en plus vastes et la pénibilité de plus en plus forte.
Are you gone like the snow of last winter? And Maloney. Our rivers run free.
C'est un projet qui ne passe pas. Les Irlandais ne veulent pas de l'abandon des poursuites contre les auteurs de crimes commis pendant la période des troubles. Ces derniers temps, le gouvernement britannique réfléchit à une loi pour empêcher de nouvelles poursuites pour des infractions commises pendant ces 30 ans de violence en Irlande du Nord, entre catholiques, partisans de la réunification avec l'Irlande, et protestants favorables à la couronne. Une amnistie déguisée pour les Nord-Irlandais. Emeline Vin a rencontré les opposants au projet.
Bilan officiel des troubles, 3000 victimes. Parmi elles, il y a Magella O'Hare, tuée à 12 ans en allant à l'église. C'était la petite sœur de Michael O'Hare.
Ma sœur Magella a été abattue en 1976 par l'armée britannique d'une balle dans le dos. Le tireur, un soldat, a été relaxé lors de son procès. Il était tout à fait coupable, mais ils ont maquillé l'affaire et l'ont libéré. Ça a été une énorme gifle pour notre famille, alors que nous essayons de nous relever de ce choc et du traumatisme.
À l'époque, l'enquête indique que Magella s'est trouvée au milieu d'un échange de tirs. Le ministère de la Défense britannique présente ses excuses à la famille en 2011. Selon les archives du conflit de l'université d'Ulster, l'armée britannique a tué 363 personnes, dont une moitié de civils, pendant toute la période des troubles. Pour représenter les familles de ces victimes, Mark Thompson a fondé l'association Relatives for Justice.
Seuls 4 soldats sont allés en prison et ils ont été libérés après 2 ou 3 ans. Le message ici, c'est que la vie d'un Irlandais ne vaut rien. Aujourd'hui, les Britanniques problème. Il faut une enquête indépendante, ce qui veut dire qu'il faudra se pencher sur ce que l'armée a fait en Irlande du Nord et sur ce qu'était la politique en vigueur.
Mi-mai, la presse britannique s'est fait l'écho d'un nouveau projet pour limiter les poursuites concernant des crimes commis pendant les troubles. Un millier d'enquêtes restent non résolues 23 ans après l'accord de paix. Si le gouvernement refuse de parler d'amnistie, il entretient le flou sur ses projets. Brandon Lewis, secrétaire d'État britannique à l'Irlande du Nord au Parlement.
Des milliers de meurtres restent non résolus. Chaque année qui passe réduit la qualité des preuves et la perspective de poursuites judiciaires. Ce gouvernement souhaite une nouvelle approche du legs des troubles, une approche qui permettra aux familles d'avoir des réponses et qui ouvrira la voie à une réconciliation large de la société nord-irlandaise.
On est à mi-chemin entre le légal et le politique.
Fergal Cochrane, professeur émérite de sciences politiques à l'université du Kent et spécialiste du conflit nord-irlandais.
S'il s'agit d'une approche sincère pour parvenir à la réconciliation grâce à la justice, ça respecte l'esprit de l'accord de paix. Si c'est tirer un trait arbitraire sur le passé et refuser la justice aux victimes, c'est en totale opposition avec l'accord. S'ils souhaitent être crédibles, ils devraient consulter les groupes de victimes, mais ils ne l'ont pas fait.
Les familles ont tout appris par la presse. Michael O'Hare, le grand frère de Majella, a tout de suite pris la parole pour dire non.
Nous ne pouvons pas être en paix ou nous réconcilier si nous n'avons pas la justice. De nombreux crimes, de nombreuses violences ont été commis pendant le conflit de la part de tous les acteurs. Des crimes pleins de haine dont les auteurs doivent répondre devant la loi.
Les fuites de presse évoquent la mise en place d'une commission vérité et réconciliation, mais le professeur Fergal Cochrane se montre sceptique.
Le processus de paix s'est construit sur une ambiguïté. On a dit, bon, nous pouvons tomber d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord, établissons un système de partage du pouvoir, mais ne regardons pas trop en arrière. Dès qu'on commence à se tourner vers le passé, on rentre dans le mur rapidement.
Premier obstacle s'entendre sur la définition des victimes. Qui sont-elles ? Les civils ? Les paramilitaires tués par d'autres paramilitaires ? Quand le gouvernement britannique lancera le chantier législatif, nous serons prêts, promet Mark Thompson, le représentant des familles de victimes.
Il est interdit d'amnistier les auteurs d'actes de torture selon la Convention européenne des droits humains. Nous estimons que les familles qui ont passé des décennies à attendre la vérité ont subi de la torture. Si vous regardez à l'international, les autres pays où des commissions vérité ont été établies, le Chili, le Guatemala, voilà à quel niveau Bretagne, Londres fuit la vérité.
Et les familles des Irlandais tués par des soldats de l'armée britannique ont déjà le soutien des gouvernements irlandais et nord-irlandais. Ils ont annoncé qu'en tant que co-signataires de l'accord de paix, ils s'opposeraient à tout retour sur le processus de réconciliation.
Il y a 20 ans, le groupe russe Tatou cartonnait en Europe. Tatou, ce sont deux femmes qui attirent la lumière, Yulia Volkova et Lena Katina, qui mettent alors en scène leur homosexualité supposée dans leur clip vidéo. Signe des temps, 20 ans plus tard, le groupe ne fait pas parler de lui pour sa musique pop, mais parce que Yulia, la brune, entend se présenter aux élections législatives sous l'étiquette Russie Unie, le parti présidentiel Étienne Bouche.
De cette vidéo de quelques minutes, c'est avant tout l'apparence de Yulia Volkova qui a été commentée. Un visage lissé à l'excès et des lèvres hypertrophiées, copieusement moquées. À 36 ans, l'ancienne chanteuse provocatrice est méconnaissable. D'une voix éraillée, elle explique briguer la candidature du parti Russie Unie dans l'oblast d'Ivanovo, une région en déclin située à 250 km au nord-est de Moscou. Yulia Volkova énumère les grands problèmes de la société russe, la faiblesse des salaires, l'industrie moribonde, l'incurie écologique, la corruption, la condition des mères célibataires. Mais le ton employé apparaît si artificiel que la vidéo n'a suscité que des sarcasmes. Que vient donc faire cette vedette des années 2000 dans la campagne des élections législatives de septembre ? Pour un certain nombre d'observateurs sérieux, la stratégie est connue. Il s'agit pour les autorités de vider la politique de sa substance, la rendre suffisamment frivole et ridicule pour en dégoûter les citoyens. Ces élections s'annoncent laborieuses pour le Kremlin qui s'emploie à nettoyer le scrutin de toute candidature encombrante. Le terrain est déjà bien préparé puisque les représentants du mouvement d'Alexei Navalny ne pourront manifestement pas se présenter. Au-delà de la dérision qu'il inspire, le retour médiatique inattendu de Yulia Volkova semble traduire un changement d'époque. Il y a 20 ans, le groupe Tatou incarnait une certaine subversion, une ouverture sur le monde aussi. Et écouter ses chansons aujourd'hui inspire une certaine nostalgie, celle d'une liberté qui paraît désormais bien lointaine.
C'est bon là ?
Music.
La musique avec Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Et vous nous emmenez en Roumanie aujourd'hui.
Ah oui, je vous propose de suivre deux musiciens roumains sur les traces des musiques traditionnelles de leur pays. Le multi-instrumentiste de Bucarest, Sacha Liviu Stoyanovici, et le producteur Alin Zabroiteanu, qui viennent de publier leur premier album sous le nom de Balkan Taksim. Le projet a d'abord consisté à sillonner la Roumanie pour rencontrer des chanteurs et des musiciens, collecter de nombreux airs folkloriques et puis les retravailler en studio en y ajoutant une petite touche moderne. Rien d'extravagant, mais plutôt un travail tout en finesse pour souligner le caractère psychédélique de ces morceaux, à l'image de la chanson « Amir et Louis » basée sur des paroles traditionnellement chantées par le marié lors de son mariage et qui marque son entrée dans l'âge adulte.
Amir et lui dans Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt. Mire le son sur.